Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado de diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et voici l'épisode numéro 77. Cette semaine, on parle du fiasco chez Ferrari à Monaco ainsi qu'une suggestion proposée par Toto Wolff et on va parler de la place des femmes en course automobile avec entre autres la qualification de Simona de Silvestro aux 500 000 d'Indianapolis. Alors bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes, bienvenue à cet épisode numéro 77. Normalement, j'aurais débuté l'épisode avec un hommage à Valtteri Bottas, mais il y a deux raisons pour cela. La première, je pense qu'il est encore fâché après son abandon crève-cœur au Grand Prix de Monaco dimanche dernier. Mais aussi parce que on vient de perdre une figure importante dans le monde de la course automobile. Évidemment, cette semaine, on a appris, je pense que c'était lundi, on a appris le décès de Max Mosley, l'ancien président de la Fédération internationale de l'automobile, à l'âge de 81 ans. En fait, Mosley était l'ancien président de la FIA entre 93 et 2009. Et il a beaucoup aidé dans le monde du sport automobile, entre autres avec la sécurité, surtout après les événements tragiques d'Imola 94. Et il était un des gros représentants présents lors des funérailles de Roland Ratzenberger. Mosley était une figure très controversée, entre autres, évidemment avec son père qui a eu un passé assez raciste et nazi. Et évidemment, c'est cette histoire d'orgie dont je ne reviendrai pas en 2008-2009, en fait, et qui a mené, en fait, à son non-renouvellement de son mandat en tant que président de la FIA. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a été avocat et ensuite est passé comme cofondateur de March Racing Team, qui a donné la chance à des pilotes comme Ronnie Peterson et Niki Lauda de faire leur preuve en Formule 1. Et évidemment, avec Bernie Ecclestone, ça a été une des grandes figures pour ce que la Formule 1 est devenue aujourd'hui, un des gros sports avec, évidemment, la FOCA et cet accord, le fameux accord Concorde. Alors, évidemment, nous voulons offrir nos sympathies à la famille et aux proches de Max Mosley qui a eu, malgré son passé controversé hors des pistes, a eu un succès énorme en course automobile. Et on peut lui dire merci pour l'apport à la sécurité qui nous a amenés. Alors, on va passer tout de suite, on va revenir sur le forfait crève-cœur de Charles Leclerc au cours du Grand Prix de Monaco. Il était parti en pôle, mais à quelques secondes de la fin, il a eu un accident et comme tout le monde a été obligé de s'arrêter, de mettre fin à leur tour, eh bien, ça a permis à Leclerc d'obtenir la pole, mais à un prix énormément coûteux, c'est-à-dire des problèmes d'arbre de transmission, des problèmes de boîte de vitesse, et ainsi le forfait avant même de pouvoir prendre le départ. Alors il devient ainsi, si je me souviens bien, le cinquième pilote à obtenir la pole sans nécessairement débuter le Grand Prix, en fait. Alors, ça, on en reparlera, mais il y a une suggestion qui est passée au cours du week-end, entre autres suggérée par Toto Wolff et quelques experts d'IndyCar. Ce serait que si un pilote devait causer un drapeau rouge, on pourrait tout simplement supprimer les deux meilleurs tours, comme ça se fait en IndyCar, et ça, c'est la règle numéro 8.3.4, si une voiture cause un drapeau rouge dans n'importe quel segment, les deux meilleurs tours de la voiture dans ce segment seront enlevés et la voiture ne peut tout simplement pas continuer. Alors, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une règle qu'on devrait voir en Formule 1? On va commencer avec Anna Maria.
Et bonjour, bonsoir.
Ah oui, comment vas-tu, Anna Maria? J'ai oublié de vous présenter.
Ça va bien.
Ça part bien. Wow. Désolé, j'ai oublié de vous présenter. Donc, c'est Anna Maria Mercado Lopez. Comment vas-tu?
Wow. Ça va.
Et tiens, pendant qu'on y est, je vous présente Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou. Comment ça va?
Ben, ça allait bien.
Non, ça va bien encore. Mais il faut rappeler qu'il fait chaud ici à Montréal, non, mais on n'est pas habitué encore.
Bon, je suis fatigué. La journée a été longue, alors.
Oui.
Donc, Anna Maria, qu'est-ce que tu penses de la suggestion de supprimer les meilleurs tours d'un pilote qui cause un drapeau rouge?
Mais qu'est-ce que je pense, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous convient, on va la chercher. Maintenant, ça sort que pourquoi pas enlever les tours à drapeau rouge, mais il faut voir avant. C'est quelle la situation? Parce que c'était pas quelque chose qui s'est fait exprès. Mm-hmm. En plus, de mon côté, je pense que on a 10 minutes pour 10 autos chercher son meilleur temps. Mais si tout le monde garde tout pour la dernière 2 minutes, c'est sa faute s'il n'est pas capable de faire un tour rapide. Ouais. Parce que oui, ils ont le droit de protéger, mais aussi, c'est pas la faute de Leclerc, il était déjà pénalisé. Mm-hmm. Son auto, il n'est même pas sorti dans la course. Et aussi, maintenant, on dit, on va chercher à indiquer parce qu'indiquer, ils font ça. Mais regarde, dans la retransmission de RDS, il y a un pilote d'indiquer. Mm-hmm. Qui fait les commentaires, c'est Patrick.
Patrick Carpentier.
Et c'est là qu'il demande à Patrick Carpentier, mais c'est toi, tu étais là à indiquer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, non, c'est les pilotes, on n'est pas d'accord. Parce que ça enlève l'émotion. Parce qu'il dit, après tout le monde, à la place de chercher un tour rapide, ils cherchent juste pas faire le drapeau rouge parce qu'il va se faire enlever le meilleur temps. Mais j'ai dit, si vous cherchez à regarder les réglementations de la IndyCar, pourquoi pas enlever le drapeau bleu? Ça aussi, en IndyCar, ça n'existe pas le drapeau bleu. Le drapeau bleu, oui, ça existe, mais c'est pas une obligation de laisser passer quelqu'un, même si tu as 3 tours de retard. C'est juste utiliser à discrétion du commissaire qu'il utilise jamais. Et c'est juste pour aviser au pilote qu'il y a quelqu'un plus rapide, il va le dépasser. Mais c'est ça ce que je dis. Tu veux mettre à la F1, la réglementation indiquée, on va mettre le drapeau bleu aussi. On élève le drapeau bleu, je pense que Toto Wolff ne sera pas content.
Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses d'une telle règle?
Ben, je trouve que c'est une bonne idée parce que, oui, il faut que tu encourages les pilotes à entrer premièrement sur la piste le plus rapidement possible et faire le tour, le meilleur tour possible rapidement. La situation qui s'est passée samedi passé aurait pu être évitée si Max Verstappen avait réussi son premier tour. Justement, il a mentionné qu'il avait eu raté un peu dans la rascade, puis que c'est ça qui avait fait perdre les secondes qu'il aurait dû avoir sur Charles Leclerc. Il a aussi mentionné que on l'a vu, il a fait 2 tours pas rapides avant de retenter son dernier tour parce que il avait eu de la misère à mettre ses pneus à température exacte pour le meilleur tour. Donc, ça fait partie de la course de devoir arrêter en raison d'un drapeau rouge. Là où je suis moins d'accord, c'est que on sait pas totalement l'intention du pilote. Dans le cas de Charles Leclerc, c'était clairement non intentionnel. C'est une erreur. Ça arrive à Monaco. Tout le monde le peut. Cependant, je trouve que ça ouvre la porte possiblement, surtout à Monaco, à faire une petite erreur, tu sais, qui peut paraître banale. Mais on sait très bien qu'en qualification, ils ont le drapeau rouge facile. Et c'est normal parce que, bon, c'est pas une course. Donc, nécessairement, un drapeau jaune est peut-être moins pertinent à lever, surtout à Monaco. Donc, je me trouve peut-être au milieu de... Oui, il faut laisser la course aller comme elle est. Mais en même temps, j'ai toujours l'intention derrière le geste. Puis, selon moi, l'important... dans une qualification, c'est de ramener ta voiture à la maison. Et si tu n'es pas capable de le faire, peut-être que de te faire enlever ton meilleur tour, ben ça va être une bonne idée pour encourager les pilotes à encore plus de performer mieux, tout en faisant plus attention.
Ça va baisser les chronos.
Mais je pense pas, moi.
Mais oui, ça va baisser parce que personne va vouloir faire une erreur, à chercher la perfection. Ça peut... Leclerc, il voulait ça. C'est ça qu'il voulait plus pour...
Il y a très peu de circuits qui te mettent à la faute pour ensuite avoir un drapeau rouge.
Mais à chaque fois, on a déjà vu des cas... Comme Schumacher, c'est la première chose que j'ai pensé. Schumacher, il a stationné la voiture dans le milieu de...
Dans la rascasse.
Oui. Il a stationné la voiture. Mais à chaque fois qu'on sait qu'il y a eu l'intention, il était pénalisé. C'est sûr, il était pénalisé. Lui, il était pénalisé de... je pense qu'ils l'ont donné 10 places ou quelque chose comme ça.
Je pense qu'il avait même été disqualifié de la séance de qualification.
Oui, c'est ça. Il était pénalisé. Et à chaque fois que s'est passé quelque chose comme ça, après, il était disqualifié. C'est pour ça qu'ils sont les commissaires, pour voir l'intention aussi. Tu peux pas juste dire, non, mais si tu commets une erreur, on va te lever ton meilleur tour. Mais ton meilleur tour, tu as pas fait quand il était dans l'erreur.
Ben, je vais juste rajouter un point et ensuite je vais te laisser parler, Marc-André. Dans l'article de The Race, il y a Jack Bagnon qui a publié ça au cours de la fin de semaine. Évidemment, quand je dis la règle en IndyCar, ça s'est passé un peu plus tôt cette année avec Felix Rosenqvist chez Arrow McLaren qui a eu un accident à sa première présence. Et ça a entraîné un drapeau rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui est harsh? Oui, mais ça a été son erreur. C'est lui qui est sorti de piste et en quelque sorte a ruiné le tour de tout le monde.
Mm-hmm. Donc, mais ça change quoi? Ça change quoi?
Mais il y a un niveau d'injustice de pas pouvoir faire ton meilleur tour parce qu'un autre pilote.
Non, mais ça change quoi dans la grille? Ça change rien parce que tout le monde. Non, parce que les gars, de toute façon, son auto était endommagé. Il pouvait même pas sortir. Ça change rien.
C'est injuste pour Max, pour Bottas, pour Hamilton qui voulait améliorer son temps. Aussi.
Si tu enlèves son temps à Leclerc, ça change rien pour les autres. Pareillement, ils ne peuvent pas faire son tour. Ils vont pas pouvoir non plus faire son tour.
Mais au moins, il n'y a pas la frustration de voir le pilote qui s'est écrasé dans le mur devant toi. Il y a un niveau d'injustice, selon moi, qui devrait regarder. Ou tester.
C'est qu'il y a dans une Formule 1, dès que tu touches quelque chose, il y a des dommages. Et même si Ferrari a essayé de sortir,
ils ont manqué
le coup parce que minimum,
pauvre Ferrari.
Minimo, il cherche quelque chose, il prend cinq places de pénalité et c'est fini. Mais c'est ça ce que j'ai dit, ça va pas changer grand chose pour celui qui a pas réussi à faire son tour.
Ouais, et je dois dire quand même que, bon, je veux juste préciser, ce qui s'est passé avec Rosenvik, c'était lors de la première course à Barber. Et si, et parlant de cela, il y a un pilote qui est en accord avec cette idée, c'est Romain Grosjean, parce qu'il a, il a vu les deux, il a vu, il voit les deux côtés.
Mais Romain, il vient d'arriver à IndyCar, hein, c'est... Et, apprend.
Et je dois préciser aussi que même Michael Massey a parlé, c'est une suggestion qui a été intéressante, on pourrait regarder ça, mais c'est pas seulement qu'en IndyCar qu'on fait ça, on fait ça aussi dans les autres, dans d'autres compétitions de sanctionnées par la FIA. Alors
mais c'est pas pareil, parce que si tu vas chercher ça, ça a l'air que la Formule 1, c'est la compétition à règne, c'est la plus haute.
Mm-hmm.
En théorie. Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu vas chercher, ah, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Mais d'habitude, c'est au contraire.
Parce que...
Qu'est-ce que il peut prendre de moi?
Parce que je comprends que, évidemment, Charles Leclerc ne l'a pas fait exprès de... C'est pas, il l'a pas fait exprès de d'accidenter sa voiture à la piscine, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de cochon comme Schumacher. Et je dois dire, à la limite, même dans Nico Rosberg en 2014 à Mirabeau, évidemment il a été blanchi parce que il y a rien qui indiquait tout ça, mais on n'est pas à l'abri d'une situation comme Schumacher en 2006 ou Nelson Piquet à Singapour.
Mais regarde, à chaque fois à la qualif, il y a des pilotes qui sont envoyés en piste qui ont rien à faire là-dedans. Parce que tu sais qu'ils vont pas améliorer son chrono. Ils sont juste pour s'asseoir des Alpha Tauri, s'asseoir des Williams. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Bah,
c'est là quand tout le monde se plaint de trafic, ils ont dit, de toute façon, dis que tu peux lever le meilleur chrono quelqu'un qui fait un drapeau rouge. Pour les autres pilotes aussi, et des pilotes qui va pas très vite en avant, qui roule, qui juste fait bloquer, et qui ont le droit d'être là. C'est pas si pire non plus, hein.
Marc-André, tu veux réagir à...
Mais je suis pas d'accord parce que, écoute, t'as un pilote qui, ça se peut un pilote qui soit très intelligent, qui soit capable de faire une faute qui peut sembler totalement légitime.
Mais c'est très difficile. Mais si,
et ensuite réagir de manière très, oh non, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, que les commissaires ne voient pas le jeu derrière, finalement, ça change complètement le championnat.
Mais ça, tu sais, ça se passe beaucoup. Des petits erreurs comme ça s'entraînent à des drapeaux jaunes. Et les drapeaux jaunes, ils ne sont pas pénalisés. Et ça, c'est plus facile à faire. Si tu veux empêcher quelqu'un de faire le dernier tour, il y en a déjà vu aussi. Des drapeaux jaunes qui empêchent tout le monde de faire le dernier tour.
Autriche 2019.
Oui, c'est
d'ailleurs.
Ça.
Mais. Ça, c'était pas à matière de drapeau rouge non plus.
Drapeau rouge, c'est plus difficile parce que quand tu dis drapeau rouge, c'est que l'auto est là pour pas bouger. Et pour que ça soit qu'il peut pas bouger, ça soit qu'il était bien écrasé. Et sinon, c'est comme Schumacher, il faut démontrer qu'il n'y a pas une intention parce qu'ils ont la télémétrie de l'auto.
Si je peux ajouter aussi un autre point parlant de drapeau jaune, en IndyCar, c'est un peu la même chose. Article 8.3.5.4, si une voiture cause un drapeau jaune qui force un adversaire à ralentir à cause d'un drapeau jaune, le meilleur tour, je dis bien le meilleur tour, pas les deux, contrairement au drapeau rouge, le meilleur tour de la voiture qui a causé le drapeau jaune va être supprimé.
Ça, je suis pas d'accord, par contre. honnêtement, un peu trop.
Non, parce que... c'est ça que je trouve drôle, parce que on va enlever à celui qui occasionne le drapeau rouge, et je dis, pourquoi pas le drapeau? pourquoi pas lever le drapeau bleu? Pourquoi pas mettre ce que... Mais oui, je suis d'accord, maintenant avec Adul, on met ça dans le drapeau, yo.
Ouais, ben moi, j'ai pas... Personnellement, j'ai pas d'opinion là-dessus parce que, je veux dire, j'ai... Comme j'ai dit, on est à l'abri de rien en Formule 1. Tout peut arriver. Quelqu'un peut trouver une.
Mais un drapeau jaune, t'as pas besoin de grand chose, hein.
Exact.
C'est fini.
Non, mais je parle plus du drapeau rouge. Drapeau jaune, ce serait plus du niveau Rosberg 2014, mais.
Ah, mais on peut mettre ça aussi, les drapeaux jaunes, hein. Je pense que Toto est pas d'accord.
C'est un peu
trop. Tu vois. Mais c'est ça, l'indicateur aussi.
Pour moi, un drapeau rouge, ça dénote d'une importance plus grave. Et si tu commets une injustice en mettant ta voiture dans le mur, je trouve que ça, c'est une injustice parce que t'as pas de chance de revenir. Alors qu'un drapeau jaune, c'est tellement banal, c'est tellement facile que ça devrait pas être pénalisé.
Mais pour qu'un pilote fasse un drapeau rouge, il y a des dommages. Mm-hmm. Et dans Formule 1, c'est difficile de faire, on va le faire exprès. Même s'il y a des gens qui pensent que Leclerc le fait exprès, non, ça endommage son auto. Dès que ça touche, je faisais la blague, c'est pas un NASCAR que tu peux les donner des coups, faire n'importe quoi. Et un Formula E, ça touche, ça continue à rouler. Mm-hmm. Mais un Formula 1, ça touche, il y a des dommages que on se rend même pas compte et après ça marche pas.
Ouais. Ben, d'ailleurs,
avec ça, il est déjà pénalisé.
D'ailleurs, je mettrai le lien de l'article de la chronique de Jack Bagnon, qui est un spécialiste IndyCar à The Race et qui a un podcast aussi avec J.R. Hildebrand, pilote qui a terminé deuxième il y a 10 ans de cela lors des 500 000 d'Indianapolis. Alors j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. C'est un sujet qui est comme vous l'avez vu, qui est assez houleux. Si c'est déjà houleux ici même dans le bulletin GP, imaginez lorsque ces suggestions ont commencé à exister en fait au cours du week-end. Et justement, on va rester dans le cas de Ferrari. On en avait parlé lors de notre émission d'après-course dimanche, mais le fiasco du dimanche à Monaco, est-ce qu'on peut blâmer Ferrari
Les nouvelles informations qu'on a obtenues étaient que Ferrari avait vérifié la voiture, mais pas complètement.
Oui,
pourquoi?
C'est ça.
Pourquoi? Je ne sais pas. Mais les nouvelles informations font passer Ferrari pour des caves. Je suis désolé de l'expression. Oh, mais honnêtement, t'as une voiture qui était très accidentée. T'avais une voiture qui, visiblement, avait des problèmes. Pour moi, il faudrait vérifier. Il y a encore la règle entre samedi et dimanche, les mécanos doivent travailler un temps X. Est-ce que cette règle-là est encore valable? Parce que
mais
regarde, qu'est-ce qui se passe?
Mais justement, je trouve que c'est inacceptable pour une écurie comme Ferrari de pas aller au bout et de sur-vérifier, surtout quand t'as une pole à jouer. T'as pas une dixième position, là. T'as une pole à défendre. Et à Monaco, c'est tellement difficile à dépasser que c'est inacceptable de pas mettre ta voiture sur le parquet. Puis, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est... C'est vraiment inacceptable pour l'écurie.
C'est inacceptable parce que Binotto, il a voulu gagner sa session-là. Il dit, on va gagner Monaco. Après ça, on est comme tranquille. C'est ça, j'imagine, dans sa tête, c'est ça. On gagne Monaco, on fait qu'est-ce qu'on peut et après, on est bien.
Maintenant, pas du tout.
Il n'est pas du tout bien. C'est pire. En plus, c'est lui-même. Lui-même a dit, peut-être il y a des dommages, il faut pénaliser. Après.
C'est un très mauvais pari, on va se le dire.
Ouais.
Parce qu'une sixième place, c'est intéressant quand même, là. On va se
mais
dire.
En plus, il dit, c'est pas la voie de vitesse. Quand ça calait, il dit, non, il n'y a pas de problème, c'est pas la voie de vitesse, il n'y a pas de problème, c'est pas comment se protégeait dès que c'était la bonne décision, mais non, c'était l'accident parce que ils ont même pas fait toute l'inspection au complet. Et disons que comme c'est l'auto, c'était un crash, il avait le droit de tout réparer. Mm-hmm. Il va juste pénaliser s'il y avait des pièces en dedans qu'il fallait changer. Là, c'est la pénalité, mais ils sont concentrés dans la boîte de vitesse. Ils ont dit, non, mais parce que côté gauche, ça n'a pas touché, on ne m'a pas regardé. Mais oui, il a touché quand tu vois les vidéos. Mais oui, ça a touché aussi.
Ça a touché, puis un choc en Formule 1, c'est...
Mais oui.
On le sait, là, tout peut briser, c'est tellement fragile. Puis une chance, parce que les pilotes sont protégés à cause de ça.
Ouais.
Mais un simple petit contact peut créer une vibration d'un côté à l'autre qui peut mener justement à des problèmes comme Leclerc a connu. Et écoute, c'est inacceptable. Une sixième place aurait été excellente pour Ferrari. Tu aurais dit oui, c'est clair que peut-être si j'avais eu des pièces à pénaliser, bien sûr.
Oui.
Mais ça, côté transmission, habituellement, il n'y a pas de pénalité. Donc, il aurait pu le changer parfaitement comme si rien n'était. Puis, écoute, honnêtement, j'étais dimanche, on s'en était parlé, justement, Ferrari semblait bien s'en tirer. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, c'est complètement...
Non, il y a plus, ce qui me dérange le plus, c'est que dans les discours, après qu'ils ont tout inspecté à Maranello, dans les discours, ils ont voulu mettre la faute sur Leclerc. Parce qu'on dit, ah, c'est la faute de l'accident. Et ça me dérange parce que oui, lui est la faute de l'accident, mais que tu n'as pas réparé la voiture comme il faut, c'est ta faute.
Ouais. Oui, et s'il devait pousser autant, c'est parce que la voiture n'est pas très au point aussi.
Mais oui, c'est ça.
Ah, bien, justement, parlant de Leclerc, parce que oui, on a beau, avec raison, blâmer Ferrari pour ne pas avoir pris un pari risqué de ce genre de prendre la pénalité et de au moins obtenir un podium, un très bon résultat, parce qu'au final ils ont perdu quoi, 3 points sur McLaren?
Ouais, à peu près.
Tu vois, si Leclerc était là, je pense que Ferrari aurait été le grand gagnant du week-end. Alors, la question aussi que je me pose, Anna Maria, tu parlais de Ferrari qui blâmait Leclerc. Est-ce que, justement, parce que je lisais des articles, des chroniques qui disaient, ben, est-ce que Leclerc pourrait aussi changer son approche aux qualifications, surtout à Monaco?
Je pense pas. On se souvient des résultats de Max Verstappen en qualification en 2018-2017. Ça l'a brassé d'affronter le mur à Monaco. Depuis, honnêtement, il n'est plus le même. Depuis les critiques de tout le monde en 2018 où on disait, ah, Max Verstappen, il va jamais être capable de donner des résultats à Red Bull. Il est immature. Il n'est pas capable de saisir les opportunités et d'être calme au bon moment. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, c'est magnifique. Donc, je pense qu'il faut juste laisser le temps à Charles Leclerc de trouver sa voix en Formule 1, sa manière d'être en Formule 1. Tu sais, ça a pris plusieurs années à Max Verstappen. C'est normal, il était jeune lorsqu'il a commencé. Mais aujourd'hui, si on reprend les commentaires d'un certain Jacques Villeneuve, par exemple, à la télé française, il le fait mentir et pas à peu près. Parce que je me souviens que Jacques Villeneuve est presque en train de donner le billet à Max Verstappen du départ de la Formule 1 pour lui dire, écoute, c'est pas ta place. Et là, aujourd'hui, il est premier au championnat. Il s'en va possiblement peut-être chercher un premier championnat au monde. Donc, tu sais, je pense qu'il faut juste laisser le temps à Charles Leclerc de trouver sa voie. Et à Monaco, les erreurs sont faciles à faire.
Ouais.
Puis, quand tu veux, pour moi, j'aime ça, un pilote qui veut pousser au maximum. Et bon, si quelque chose arrive, si tu es prêt à bien contrôler la voiture, au moins, je pense que l'intention de faire le mieux peut être bon pour un pilote. Mais c'est clair, tu fais une erreur, puis à la piscine, tu fais une petite faute, puis c'est fini. Puis on a vu, avant de finir mon commentaire, on l'a vu quelques tours avant, il avait été à la perfection. Il avait tout juste tourné. Là. Quand on parle de frôler la barrière, là, il l'avait fait. Et cette image-là m'est restée en tête parce que lorsqu'un pilote réussit à faire ça à la piscine, c'est pour moi, c'est du bonbon. Là.
Ben justement, avant de laisser parler Anna Maria, moi, je pense, je viens d'avoir un flash. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait, dans certains de notre podcast, entre autres après le Grand Prix de Sakhir, parlé de Charles Leclerc qui avait yeeté Perez et Verstappen d'un coup au premier tour. Et on avait tellement parlé de Leclerc qui était trop agressif pour rien, entre autres au premier tour. Et c'est peut-être ça aussi. Le truc, c'est, ce sont des erreurs globales. Mm-hmm. Et je sais pas si on pourrait ajouter aussi son accident à Bakou en 2019, son fameux I am stupid. Mais c'était une qualification où Ferrari aurait peut-être pu jouer les troubles faits à Bakou. Donc, je sais pas si globalement, ce serait ça aussi qu'on pourrait reprocher à Leclerc.
Mais... Mais je pense que globalement, Leclerc, il y a beaucoup d'erreurs encore, il apprend, mais on a comment, il se voyait pas parce que on était juste en train de critiquer Vettel tout le temps. Parce que tant que le focus était mis sur Vettel, on était comme, non, c'est nouveau, il arrive à l'équipe, et il faut le laisser apprendre. Ben maintenant, c'est sûr que c'est le premier pilote. Une petite erreur, c'est plus grave qu'avant. Tout le monde va le regarder, tout le monde a dit, ben lui, c'est le premier pilote, lui, il ne devrait pas faire cette erreur. Mais aussi, il faut voir que Leclerc, il y a un problème avec Monaco.
Ouais.
C'est pas juste qu'il n'y a pas... on dirait que Monaco serait le circuit que lui, il devrait connaître le plus. Il habite là, il roule là tout le temps. Mais on dirait que, je sais pas si c'est le stress ou quelque chose, ou lui, il veut tellement performer à Monaco que ça finit jamais.
Ben, moi,
je il est fait un F2, un F1, il jamais finit une course à Monaco.
Ouais. Oh, Marc-André, tu veux ajouter quelque chose?
Est-ce que pour vous, le talent d'un pilote peut se voir à Monaco? Est-ce que pour vous, c'est un signal d'alarme qu'il ne soit pas capable de terminer Monaco?
Mais j'ai dit que Monaco, c'est des circuits les plus techniques.
Ouais.
C'est pas la vitesse, c'est pas la voiture des fois. C'est un des circuits les plus techniques qu'il y a. Mm-hmm. Il faut pas toucher les murs, il faut faire attention à chaque tunnel, n'importe quoi. Mais quand tu vois qu'un pilote est capable de performer à Monaco, c'est pas si mauvais pilote.
Parce que honnêtement, je vous pose la question parce que j'étais très indécis sur ma position. J'ai l'impression que Monaco, justement, c'est tellement technique, mais c'est tellement mental.
Oui.
Que oui, aussi.
C'est différent. Je trouve qu'on peut peut-être être moins dur en faire un pilote à Monaco parce que c'est mentalement tellement, mais tellement difficile.
Parce que, juste comme ça, j'ai la liste des vainqueurs. J'ai la liste des vainqueurs à Monaco. Il y a certaines. Nigel Mansell qui n'y est pas, puis il a gagné le championnat du monde. On considère comme un des plus grands pilotes de tous les temps. Nelson Piquet, je regarde rapidement. Nelson Piquet aussi, triple champion du monde. Je pense qu'il n'a jamais gagné à Monaco. Alors.
Ouais, ben c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Là.
C'est ça, parce que t'es pas parce que oui, Monaco c'est le. Je sais, je l'ai tellement entendu et quoi que c'est vrai, c'est le diamant de la Formule 1. Alors, évidemment, tout le monde veut gagner à Monaco. Donc, et comme tu l'as dit, Marc-André, c'est un circuit où tu as besoin de toute ta concentration. Alors, pour Charles Leclerc, le simple fait, par exemple, d'avoir essayé deux fois une, ça a fonctionné, mais l'autre, ça a raté de dépasser Alaraska. C'était osé. Mais et il a réussi une fois sur Grosjean, mais l'autre, il l'a carrément raté et c'est ce qui a causé son abandon. Je veux dire, c'est vrai que c'est difficile de dépasser. Il faut que tu prennes tes chances, mais il ne faut pas le faire à tâtons. Donc, c'est peut-être ça.
Mais lui était, il avait la tête.
Parce que ça, ce genre de...
Lui était pas content la dernière fois qu'il s'est crassé 2 fois dans la même course.
Écoute, il est jamais content.
Il jamais content.
Et c'est ça aussi. C'est quelque chose que, et j'aime ça voir un pilote qui est capable de s'auto-critiquer, mais tout le temps.
Ouais, ça vient lourd, je trouve.
Ça devient lourd.
La première fois, c'était cute, c'était beau.
Mais c'est ça.
Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu trop. Tu sais, à un moment donné, besoin de t'excuser et de te lamenter par la radio.
Mais juste te concentrer, fais ton travail, c'est tout.
Tu peux aller voir ton équipe dans le garage après, puis faire une petite réunion, puis leur dire, regarde, c'est mon erreur, je suis vraiment désolé.
C'est ça.
Mais à la radio, ça devient un peu trop, je trouve.
Mais c'est pareil comme Hamilton. On parle pas aujourd'hui de Hamilton, mais c'était un mauvais fin de semaine pour lui.
Non, les pneus, ils tiendront pas, les gars.
Mais cette fois, c'était vrai. Il n'y a rien qui marché. La qualif, il n'a pas marché. Et dans la course, il s'est fait.
Ils ont fait
l'undercut. J'ai dit, OK. On faisait la blague parce qu'on dirait qu'on dit, Stroll, il était 8. Lui était 7, et j'ai dit, Stroll, il est capable d'arrêter et peut-être revenir devant Hamilton.
C'est fou, mais c'est ça Monaco.
Mais oui.
C'est ça, c'est...
Mais oui.
C'est du bon réglage, la bonne pression.
Concentration.
Et ça aussi était accru
quand même, puis la concentration.
Et maintenant, aujourd'hui, on parle de Ferrari, on parle de Leclerc, mais j'ai un petit cadeau pour Hamilton. Lui était pas gentil envers son équipe non plus. Il a mis la blâme sur l'équipe parce qu'elle a dit non, moi je commets jamais des erreurs. Et l'équipe il doit apprendre. Mais regarde, avant l'équipe il fait des belles stratégies pour toi, il te fait avancer, il te fait gagner. Aujourd'hui ça n'a pas marché et c'est pas grave.
Tu passes à autre chose puis tu.
Non, à la place de dire bon, on parle avec l'équipe, c'est pas grave. Il dit non, j'ai rien à me rapprocher. Et l'équipe
C'est ça.
Maintenant je vais penser si mon contrat est renouvelé ou non. Regarde Hamilton, combien de fois il te fait gagner cette équipe.
Je vais prendre, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu arrogant. Ça, c'est,
oui,
ça, c'est
beaucoup.
Vrai.
Beaucoup.
je veux dire.
Énormément.
C'était arrogant, d'accord. Mais on n'est pas du niveau d'Alain Prost, qui qualifie une Ferrari de camion uniquement pour se faire.
Ah, mais c'est faire envoyer aussi, hein.
Oui, c'est ça. Alain Prost s'est fait. C'est fait renvoyer pour avoir quelqu'un.
Il
n'y
a pas d'autres opportunités.
C'est ça. Puis, ça a été une année sabbatique. C'est pas pour rien.
C'est ça. Donc, mais des fois, tu dis ça, mais tu n'as pas l'opportunité de répéter 2 fois. Hein.
Mais Hamilton. J'ai trouvé que c'était pas, non, premièrement, sympathique.
Ouais.
Mais on dirait qu'il a oublié que la semaine d'avant.
Oui.
C'est son équipe.
Bono l'a fait gagner.
Mais c'est l'usine en arrière qui l'a fait gagner, puis qui a fait les chiffres puis les mathématiques pour s'assurer que Hamilton avait la victoire en poche. Tu travailles en équipe, tu gagnes en équipe et tu perds en équipe. Hamilton a peut-être mal donné les indications à son équipe.
Ouais.
Qui avait les données un peu faussées, un peu mauvaises pour lui donner des réglages intéressants au cours de la fin de semaine. Est-ce que l'idée de Mercedes de pratiquement tout changer les réglages était une bonne idée? Non. Mais peut-être que Hamilton avait un certain tort là-dedans. Puis aujourd'hui, on voit que le résultat est ainsi. Fait.
Écoute.
Mais il y a beaucoup de fois que Hamilton n'est pas d'accord, mais il gagne quand même. L'équipe fait la belle job à la fin. Oui. Et cette fois-ci, il a pas marché, mais regarde, tu savais qu'à Monaco, si tu n'es pas le premier, c'est difficile. Mm-hmm. Mais arrange-toi pour que ton qualif soit bon.
Ouais. Et ben justement, ça a été un mauvais week-end pour Hamilton et pour Mercedes entre autres. Alors, je pense que les deux sont entièrement responsables de leur de leur échec. Donc, ils vont passer à autre chose. Donc, ils vont passer à autre chose et on vont peut-être revenir à Bakou, mais ils peuvent pas se permettre de d'avoir de mauvais week-ends parce que sinon. Ça, une saison, ça passe vite, puis ça se rattrape très difficilement. On va passer maintenant d'un diamant du sport automobile à un autre. Et ça, c'est un feel-good story, parce que oui, Scott Dixon va partir en pole position dimanche lors des 500 000 d'Indianapolis aux côtés de Colton Herta et de mon préféré Rinus VK. Mais le plus important, en fait, et la raison pour laquelle on en parle, c'est parce qu'il y a en 33e place une écurie de Pareto Autosport, une équipe qui est composée majoritairement de femmes, on parle de 70%. Pareto, en l'honneur de Bad Pareto, qui est la propriétaire de cette équipe, et qui a Simona De Silvestro, qui a réussi à se qualifier pour les 500 000 d'Indianapolis. Et évidemment, je suis très content de l'avoir parce que non seulement Simona est une bonne pilote qui peut-être aurait pu avoir une chance en Formule 1, on sait jamais, avec Sauber, malgré toute la controverse des pilotes en 2015, mais je suis très content de la revoir en IndyCar. Anna Maria, je voudrais avoir ton opinion parce que moi je suis très content de l'avoir. Et est-ce que ça va, parce que le but de Pareto Autosport, même si c'est parrainé par Penske aussi, c'est non seulement d'avoir des femmes qui participent aux 500 000 d'Indianapolis, d'avoir une chance de compétitionner au plus haut niveau, mais aussi de donner à des dames, non seulement au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau du marketing, mais aussi au niveau de l'ingénierie, de la science. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est un très bon pas, on a un bon pas vers la direction avec Pareto Autosport?
Mais oui, mais chaque essai, je dis, chaque chose qu'on fait pour encourager les femmes, c'est une bonne chose.
Oui.
Et en plus, avec Simona et IndyCar, c'est très bon parce qu'elle, il a déjà l'expérience à IndyCar aussi.
Oui.
Dans sa première participation à Indy 500, parce que maintenant, c'est la cinquième fois qu'elle participe à la course.
Mm-hmm.
Et la première fois, il est arrivé 14.
Ouais.
Quand même, c'était pas une mauvaise chose, mais c'est bon montrer, essayer, faire quelque chose et dire, regarde, la fin, on est capable aussi, c'est pas juste des sports de hommes, les sports automobiles, on essaye de changer ça parce que avant, on disait, oui, mais la fin, ils sont là, mais ils sont pas mécaniciens, ils sont pas ingénieurs. Oui, maintenant, ils sont mécaniciens, ils sont ingénieurs, ils travaillent comme la mécanique et tout. Mais c'est bien chaque chose qu'ils font, les encourager
à faire mieux. Et parce que aussi, il faut préciser, il y avait pas seulement Simona De Silvestro, il y a évidemment Danica Patrick, il y a aussi Pippa Mann qui s'est qualifié à nombreuses reprises aux 500 000 d'Indianapolis, il y a Sarah Fisher et même la première c'était Janet Guthrie. D'ailleurs, il va avoir une adaptation de son exploit au cinéma et ça va être l'actrice Hilary Swank qui va jouer le rôle de Madame Guthrie. Elle s'était qualifiée aux 500 000 en 1977. Alors moi, je dois dire, je suis très content de voir que on donne la chance parce que c'est en faisant ce genre de mouvement, comme tu l'as dit, Anna Maria, qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut éviter de trop, comment dire ça, rendre ça machisme parce que on doit se le dire. La course automobile, je vais me faire lancer des tomates, je m'en sacre. Il y a encore un côté machisme. Il y a encore un côté de machisme. Et justement, c'est je sais que ça va paraître woke aussi, mais de l'inclusion aussi, c'est bon parce que juste à voir ce que Hamilton doit subir semaine après semaine. Bon, hormis Monaco, on va s'entendre. Ça, c'était 100%, c'était 100% sa faute. Mais à chaque fois, c'est toujours, c'est la voiture, mais tu entendrais rarement la même chose si c'était un Schumacher. Mais ça, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais on a besoin d'avoir des personnes qui sont intéressées, à la course automobile. Peu importe d'où elles viennent, peu importe leur background. Et justement, l'idée de Pareto Autosport d'avoir une équipe majoritairement féminine, ça va donner une grande visibilité, surtout dans une des courses les plus importantes du sport automobile. Même plus importante que Monaco, soyons honnêtes. Alors, moi, je dis chapeau à Beth Pareto. Elle a déjà fait les 500 000 d'Indianapolis à plusieurs reprises. Elle sait comment ça marche. Et le simple fait d'avoir une Simonade de Silverstone, quelqu'un qui connaît le milieu, c'est un très bon plan. Et que ce soit, qu'elle soit première ou 33e, au moins l'important, c'est qu'elle soit là dimanche. Et il y avait 35 voitures. Elle en a battu deux. Donc, c'est déjà c'est un très, très bel exploit. Et je dois dire félicitations. Et je dois pas regarder ça seulement en IndyCar. Par exemple, l'Extreme E, dont la deuxième course de la saison a lieu ce week-end au Sénégal. Mais je sais pas pour me vanter là. Mais tu vois, il y a un équipage masculin et féminin. Donc au moins pour donner la chance à tout le monde de faire sa part. Et il y a Jamie Chadwick qui est là aussi, qui est probablement la meilleure pilote femme sur la planète en ce moment. Et puis tu m'avais dit aussi, tu avais une histoire que tu voulais me raconter.
Oui, parce que tu sais, maintenant il y a beaucoup de fans, on encourage aussi, il y a Grille Autran, il y a la Hero Woman, qui c'est elle qui est derrière la fille qui está sur l'Académie Ferrari pour faire la F4, il s'appelle.
J'ai oublié son nom. Mais je pense qu'elle est belge.
Elle est en Espagne, mais elle est belge. Il ne course pas avec le drapeau espagnol, c'est avec le drapeau belge aussi. Mais aussi, il y a une équipe complètement féminine. C'est Vitari Sport, c'est en Argentine. Il y a beaucoup de courses en Argentine. Il y a le TC Sport. Ils font son équipe là, mais toute l'équipe y est des femmes. Les pilotes, la directrice, les mécaniciens, ils sont tous des femmes. Et avant, ils travaillaient aussi avec des pilotes hommes, pas juste avec des femmes. Lo curieux, c'est que j'ai eu l'opportunité de parler avec la directrice de l'équipe, qui s'appelle Tamara Vital, qui est argentine, mais il avait pas en tête, quand il a fondé son équipe, il avait pas en tête juste promouvoir la femme. C'est parce que quelqu'un l'a dit, mais vous travaillez déjà très bien, vous travaillez excellent, mais pourquoi pas une équipe?
Ouais, c'est une très bonne idée.
Pourquoi pas une équipe? Il a dit, oui, ok, on m'a fait, il l'a fait, et en plus, ils font des bonnes performances, ils ont fait des podiums et tout, avec son équipe. Et elle me disait, je savais même pas qu'il y avait jamais existé une équipe juste de femmes, avec tous les mécaniciens. Et elle me disait, mais on est prêt à travailler avec n'importe qui. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on dit, on reste enfermé avec des femmes. Mais si quelqu'un vient, il dit, OK, il travaille avec nous, pilote, on va aller à travailler avec.
Ah ben je suis content d'apprendre cette histoire parce que ça donne un très bon espoir de voir au moins beaucoup plus de femmes en course automobile. Et d'ailleurs, tu m'enverras le lien. On va le mettre sur notre site Bulletin GP parce que je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Et justement, même le programme de la FIA Women in Motorsport aussi. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il y avait aussi Suzy Wolf qui avait lancé Dare to be Different aussi, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est devenu Guild of Track.
Oui.
Guild of Track, que maintenant c'est Guild of Track Ukraine. Ils font l'appui pour les fans en Formule 1. Ils font des conférences avec pour encourager les sports, ça soit dans les femmes pour les pilotes, ça soit en n'importe quelle matière dans le motosport, mécanicien, technicien, parce que les femmes, ils peuvent piloter, mais ils peuvent faire n'importe quoi aussi.
Ouais, exactement. Donc, imagine, je pense que on se dirige, j'ai coupé ça en montage. On se dirige en fait sur le bon chemin. Donc, je suis très content d'apprendre ces genres d'histoires et non seulement avec celle-là au pluriel, mais aussi avec IndyCar, le nombre de femmes qui sont de plus en plus présentes en Formule 1, mais aussi en championnat du monde d'endurance. Il y a même une équipe...
Les Bouygues aussi. Oui. Il y a Richard Miller, qui a Tatiana Calderon.
Patrick Kivessa, Sofia Florch aussi, oui, qui est là. Il y a Christina Nielsen qui participe aussi au championnat nord-américain d'endurance en IMSA aussi. Il y a W Series qui pousse les femmes à compétitionner et avoir un meilleur chemin vers la course automobile aussi. Alors, je suis très content de ces initiatives et du sérieux que ça prend parce que, sérieusement, entre le moment où j'ai commencé à regarder la course automobile, quand j'étais un petit kid, évidemment, je pouvais pas le savoir. Et maintenant, je vois que il y a du progrès qui est fait. Énormément de progrès qui est fait. Alors, si ces genres d'initiatives continuent d'être prises au sérieux, ben, un jour, on va peut-être avoir un peu plus de femmes en course automobile et que elles vont pas être jugées par leur sexe, mais par leurs aptitudes, leurs habiletés. Alors.
Et maintenant, c'est comme, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est encourager les filles, parce que tu te retrouves que dans les quartiers, c'est que tout commence. Mm-hmm. Mais ici, il y a 50 garçons pour une fille, après, on retrouve qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais maintenant, avant de la façon qui était, d'exposer les sports, on n'encourageait pas les filles à courir.
Exactement. C'est que
maintenant, il y a des figures, ils voient, ils disent, ah, ok, mais les filles aussi, pour courir, fait que les filles sont plus intéressées. Aussi que les sports, ils deviennent plus sécuritaires, fait que on essaye de, je dis, les parents aussi sont plus à l'aise, laisser la petite princesse prendre l'auto.
Exactement. Puis, je lisais un article aussi qui disait que... Et c'était en entrevue avec une pilote saoudienne, Assel Al-Hamad, qui avait dit... Il y a 1,5% des permis de course qui sont attribués à des femmes. 1,5%!
Oui.
C'est très peu. C'est très peu en ce moment là, donc
mais aussi tu sais, on parle de Simona de Silverstone, qu'est-ce qui t'est arrivé, parce qu'elle était en Sauber,
ouais,
et il s'avait fait promis de cesser pendant un week-end de fait, hein, ça a été programmé pour se faire aux États-Unis.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, les sponsors, Simona n'y a pas arrivé.
C'est ça.
Avec les sponsors, c'est ça. Il y avait pas beaucoup de monde qui encourageait les filles, mais que à la fin, il s'est dit non, non, c'est non, mais parce que quelqu'un d'autre il a proposé plus d'argent, il y a plus de gars. Aussi, aussi, la question c'est que pour chaque fille qui se présentait, chercher un sponsor, il y avait 10 gars.
C'est ça. C'est malheureusement ça. C'est encore un problème d'argent. Donc,
Mais maintenant, c'est un peu différent parce que, disons que quand on élevait les filles de la guerre, les popo guerres.
Ouais, les great girls. Et ça, c'est une bonne chose que ce soit parti.
C'était une bonne chose parce que ça enlève un peu l'image que le monde avait de la femme dans le motosport.
Vraiment.
Oui, et ça, c'est une petite chose qu'il y avait des mondes qui n'étaient pas contents, mais ça donnait beaucoup.
Oui.
Parce qu'on arrêtait de regarder les filles comme une décoration dans la course.
Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Et justement, avec ce que avec un article qui était sorti dans la presse, concernant une étude du Conseil des Montréalaises, avec le nombre d'harcèlements, d'agressions sexuelles qui ont lieu pendant le Grand Prix du Canada, c'est juste dégueulasse à lire. Et ça montre encore que l'environnement de la course automobile est majoritairement machisme. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas mal ça. Et j'espère voir une diminution aussi. Alors, déjà avec, et pour revenir avec Paretta Autosport, je souhaite tout le meilleur à Beth Paretta ainsi qu'à Simona De Silvestro parce que ça, c'est une expérience non seulement qu'elle va refaire année après année, mais j'espère que ça va se traduire aussi avec quelques courses en IndyCar au cours de la saison. Peut-être pas pour cette année, mais peut-être à partir de 2022-2023.
Oui, c'est ça.
Qui sait?
C'est ça qui est le plus difficile quand tu arrives haut. Il n'y a pas beaucoup de pilotes féminins. Maintenant, il n'y a pas beaucoup, mais ça sent bien.
C'est ça. On se croise les doigts pour qu'il y en ait un peu plus.
Ouais.
Alors, c'est ce qui complète cet épisode de Bulletin GP, épisode numéro 77. Alors, cet épisode que vous écoutez présentement est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher et toute autre plateforme de podcast préférée. On se retrouve la semaine prochaine et on va revenir sur les 500 000 d'Indianapolis, justement, et en espérant que ce soit soit Scott Dixon ou, écoute.
Juan Pablo Montoya, il fasse au troisième.
Ouais, Montoya troisième, mais je veux une victoire de Rinus VK. Désolé. C'est comme ça. C'est devenu mon pilote préféré, avant Romain Grosjean, alors. Donc, on va revenir sur les 500 000 d'Indianapolis, et aussi, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, @lebulletingp en un mot, et notre site internet bulletingp.com pour lire les chroniques entre Grand Prix, dites tes pensées, même les revues d'après-course, et les podcasts sont disponibles. Alors, tout y est en fait sur bulletingp.com, notre site officiel. Alors, Anna-Maria, un énorme merci.
Ah, merci à toi et à tout le monde qui nous écoute à chaque fois. Et
évidemment, Marc-André Fortin, qui a dû nous quitter un peu plus tôt aussi, vous salue. Ça a été un épisode assez houleux, mais c'est ce qu'on aime aussi, ce sont ces genres de débats. Alors, mon nom est Abdou Sall, on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, restez en santé. Tel le tunnel à Monaco, il y a toujours une lumière au bout. Salut tout le monde!
C'est